Que le Seigneur soit béni. Eh bien, nous allons lire une lecture qu'on n'a pas lue il n'y a pas si longtemps que ça, dans Ésaïe 61. Le ministère du Seigneur, ce que le Seigneur veut dans sa maison, c'est qu'il y ait son onction. Que l'on soit deux, que l'on soit trois, 2 000, 5 000, 100 000, Dieu veut l'onction du Saint-Esprit. Qui aimerait ce soir être touché par le Saint-Esprit ? Oui, moi le premier. Ah, moi je peux vous dire que c'est la volonté de Dieu en tous les cas. Regardez, en plus, notre frère Michael a lu ce texte pour introduire les chants, et je peux vous dire que c'est le texte que j'avais prévu pour ce soir. Donc on peut en déduire quand même, que le Seigneur, il veut que l'on réalise ce que l'on va lire. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? Est-ce que quelqu'un pourrait savoir? Parce que Jésus, quand il a repris ce texte dans l'Évangile, s'est arrêté là, il s'est arrêté à l'année de grâce, alors qu'il y a une virgule, il n'a pas cité le texte un jour de vengeance. Pourquoi? Parce que Jésus est venu apporter la grâce et que la colère de Dieu est réservée à ceux qui ne voudront pas la grâce de Dieu. Alors j'aimerais quand même lire un texte qui corrobore ce que nous venons de lire. Dans Matthieu chapitre 9, au verset 27, il a vécu et il a surtout fait vivre à deux aveugles ce que l'on vient de lire. Parce que la doctrine, c'est bien. Mais l'expérience, c'est quand même intéressant. Je crois que c'est bien de connaître la théologie, de pouvoir dire oui, c'est vrai, le ministère de Jésus est un ministère de délivrance, le ministère de Jésus est un ministère de guérison, mais cela a été vécu et cela doit se vivre encore. Matthieu chapitre 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors, il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Amen. Voilà ces aveugles qui ont entendu parler de Jésus. Bien sûr, la palisse peut le dire, qu'ils ne l'ont pas vu, mais ils ont entendu parler de Jésus. Peut-être que vous n'avez pas vu Jésus comme vous auriez pu le voir, moi le premier. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu dans nos vies tout ce que Dieu peut faire. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que nous serions étonnés devant les réserves inépuisables de la grâce que nous pourrions, je le crois, nous comparer à un de ces aveugles et dire oui, on sait que Jésus est vivant, on sait qu'il peut faire certaines choses, mais on a aussi besoin de faire une expérience. D'autant plus que le ministère de Jésus n'a pas changé et ce soir, c'est exactement ce qu'il veut faire. J'espère que vous n'êtes pas influencé par ce que vous voyez devant vous, comme Michael le disait. C'est vrai est-ce qu'il peut y avoir des épreuves devant nous? Est-ce qu'il peut? Ben oui. Il y en aura, il y aura des bénédictions, il y aura des épreuves. Ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves que ça ne va pas. Vous savez, nous, on est super conditionnés par la mentalité du monde. Et il faut toujours, toujours être joyeux, toujours être heureux, toujours ci, toujours là. Et on nous bassine de publicité pour nous faire croire que si vous mâchez des chewing-gums, vous serez heureux. Vous vous rendez compte? Si vous voulez être heureux, bien mâchez des chewing-gums. Vous voyez comment il faut être vraiment bête pour croire des trucs pareils. Et le monde nous influence. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'épreuve qu'on est malheureux. On est malheureux quand on ne connaît pas le Seigneur et quand on ne le connaît pas vraiment. Vous remarquerez chez ces deux aveugles que le Seigneur les a testés. Souvent, on voit que Jésus s'arrête. Il est là, on le rejoint. Vous remarquerez que ces deux aveugles, ils crient « Aie pitié de nous, fils de David !» Vous avez remarqué comment ils appellent Jésus? Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, vous avez des gens qui appellent Jésus « fils de David ». Ils auraient, normalement, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Fils de Joseph. Mais non, vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient pu dire fils de Joseph, puisque Jésus était, humainement parlant, le chef, le fils. Fils de David, ils avaient compris que Jésus était roi. Ça veut dire, puisque David était roi, ils avaient compris que Jésus était le roi. Vous savez, aller dans une église, c'est une chose. Prier, C'est une chose. On voit plusieurs textes dans la Bible où le Seigneur dit que ça sert strictement en rien. On l'a vu mardi, Jésus dit à des religieux, c'est en vain que vous m'honorez. Donc ça sert à rien. Il y a des gens qui vont à l'église, qui lisent la Bible, qui... Tout à l'heure, je lisais encore dans l'évangile de Jean, quand Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Vous sondez. Bon, c'est sûr que c'est tout ce qu'on souhaite, que les gens sondent les Écritures. Et il ajoute, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle en les sondant, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Car lorsque l'on vient à Jésus-Christ, le fils de David, le Dieu du ciel et de la terre, eh bien, il peut nous communiquer sa vie. Je ne sais pas tout ce que ces deux aveugles avaient entendu. Ont-ils entendu un témoignage? En ont-ils entendu 50? Je ne sais rien, on ne peut pas savoir. Mais une chose est certaine, ils avaient entendu parler de Jésus-Christ. Et si nous, sérieusement, je ne sais pas si on le réalise, si nous sommes dans le même cas de figure, c'est-à-dire, on est là dans la maison du Seigneur. On a chanté des cantiques qui nous rappellent la bonté du Seigneur ou la puissance de Dieu. D'un autre côté, nous pouvons nous identifier à ces deux aveugles parce que même si nous avons beaucoup cheminé avec Dieu, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut nous montrer, nous révéler, nous réapprendre, peut-être nous apprendre, et que nous pouvons nous comporter de la même manière. Dieu ne faisant pas de favoritisme, nous pouvons en déduire que Dieu agira de la même manière. Donc ces deux aveugles, ils crient. Ils crient, alors est-ce qu'il faut crier dans une église pour que Dieu nous entende? Parce qu'il y a des gens qui sont doués pour le mimétisme. C'est-à-dire qu'il faut n'importe quoi. Jésus a dit que ceux qui criaient jour et nuit, Dieu les exaucerait, alors ils crient. Et dans les églises, il y a des gens qui crient. Je me souviens un jour d'une femme que j'ai fait taire, elle criait, un mardi soir, elle criait, elle hurlait. C'est la première fois qu'elle venait, bon, elle ne savait pas la pauvre. Et je vais la voir, je dis, mais pourquoi vous criez? Mais j'ai réussi, mais pourquoi vous criez? Alors, regarde comme ça. C'est pas la peine de crier. Le Seigneur, il n'est pas sourd. Il vous entend. Mais pourquoi vous criez? Parce que dans mon église, on m'a dit qu'il fallait crier pour que Dieu nous entende. Je dis, criez pas, c'est pas la peine. Cette femme, elle est membre de l'église. Je peux vous dire qu'elle a été exaucée. Mais on lui avait dit qu'il fallait crier. Donc elle criait. Parce qu'ils ont pris ses paroles à la lettre. Ceux qui crient jour et nuit, je veux dire, si vous criez jour et nuit, vous risquez peut-être pas de vivre longtemps. Crier jour et nuit, ça veut dire que notre foi, elle est plus forte que le doute. C'est ça que ça veut dire. Crier à Jésus, ça ne veut pas dire qu'on augmente en décibels. Ça veut dire que je crois vraiment que la présence de Dieu, c'est ce qu'il me faut. Voilà, vous pouvez crier dans le silence. Est-ce que Anne, elle ne criait pas à Dieu dans le temple? Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait que remuer les lèvres. Moi, j'aime cette histoire parce que ce n'est pas le seul texte dans la Bible qui nous le montre. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais dans son cœur, elle criait à Dieu. C'est une chose que c'est important de le savoir. C'est très important de le savoir, de réaliser que Dieu entend nos pensées. Je me souviens, une fois, c'était en Polynésie, je sortais un seau de peinture, un gros, vous savez, ces pots de peinture de 20 kilos, là. Et je me suis coincé le dos. Mais je me suis vraiment coincé le dos. Et le soir, je priais dans mon cœur. Je dis, Seigneur, si tu veux que je fasse... Vous savez, quand on est pasteur, des fois, on a des journées longues. Et on n'a pas le temps de faire du sport, etc. Et donc, j'étais dans mon lit. Je dis, Seigneur... ma femme était à côté, elle n'entendait pas. Je parlais dans mon cœur. Est-ce que c'est biblique de parler dans son cœur? Est-ce que c'est écrit? Dans quel psaume c'est écrit? Parlez dans vos cœurs. C'est bien, c'est le numéro 4. Dans le numéro 4, il est dit, parlez dans vos cœurs. Parlez dans vos cœurs. Il dit, Seigneur, si tu veux que je fasse un peu de gym, tout ça, vraiment conduis toutes choses. Parce qu'en plus, financièrement, on ne pouvait pas se payer la salle de sport, ce n'était même pas la peine d'y penser. Et le lendemain, je n'y pensais plus, moi. À 10h du matin, il y a un frère qui arrive, il dit, tiens, j'ai une question à te poser, voilà, par rapport à la Bible, j'ai lu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et en partant, il me dit, oh, en fait, tu sais, je veux faire du sport, mais je n'ai pas envie d'y aller seul. Est-ce que ça t'intéresse, ce dialogue? Je dis, mais oui, mais d'accord, mais tu sais, mais j'ai compris, je te le paye. Vous voyez? Et pendant quelques mois, on a fait du sport dans cette salle. Et il y a le patron de la salle de sport qui est venu, sa femme, le professeur qui s'est converti, qui s'est baptisé, sa femme aussi. On a vécu une expérience formidable. Mais voyez, j'avais prié dans mon cœur. Mais j'avais, franchement, je crois qu'on peut crier à Dieu dans son cœur. Et c'est vraiment biblique. Pour ceux qui ont des petits doutes, on va quand même le lire dans le psaume 4. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. C'est très très important de lire la Bible. Tout à l'heure, vous allez vous coucher, non? Est-ce que vous allez vous coucher tout à l'heure? Oui. Regardez, moi ce psaume, c'est un psaume qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que je l'ai vérifié pas une fois, des dizaines et des dizaines de fois. Psaume 4, verset 5. C'est un verset, moi, qui m'a béni. Regardez, tremblez, ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis, taisez-vous. Ça, c'est sûr que c'est le mieux de se taire. De se taire dans le sens, ce n'est pas la peine d'argumenter. Mais quand même, c'est une parole de Dieu. Parlez dans votre cœur. Donc, criez à Dieu. Ce n'est pas une question de décibels. C'est une question de détermination. Je veux chercher Dieu de tout mon cœur. Ces aveugles étaient déterminés. Vous savez, quand vous regardez l'évangile et que vous regardez ce qui s'est passé après le ministère de Jésus, vous vous rendez compte que tous les aveugles, tous les estropiés n'ont pas été guéris du temps du ministère de Jésus. Beaucoup l'ont été après, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait la démarche. Il y a beaucoup de gens qui, même du temps du ministère de Jésus, ont dit « Ben non, ça c'est des âneries », ils sont restés chez eux. Ils sont passés à côté. Bien sûr qu'on peut passer à côté de la bénédiction. Ces deux aveugles, eux, ils avaient pris la décision. Peut-être ils étaient avec des copains, une dizaine, j'en sais rien. Mais eux, ils ont dit, ces deux, ils ont dit, non, mais écoutez, vous restez là si vous voulez. Nous, on y va. On ne sait pas, on peut fabuler de mille espèces différentes. Mais une chose est sûre, ces aveugles, ils criaient la bonne prière. Mais Jésus s'est pas arrêté. Il a fallu que ça se passe jusqu'à la maison. La maison, bien sûr, pour nous, ça représente la maison du Seigneur. La maison de Dieu, où on fait des démarches, parfois on a besoin d'aller à la maison du Seigneur. On a besoin de se retrouver avec des frères, avec des sœurs, de chanter des cantiques, de prier, de lire la parole de Dieu, de s'encourager, de s'exhorter. Jésus aurait pu s'arrêter. Il l'a fait maintes fois que pendant un cortège, le Seigneur s'est arrêté pour bénir d'autres aveugles. Dieu bénit chacun à sa façon. Je me souviens un jour de cette sœur qui disait à une autre sœur qui fumait, « Si tu veux être délivré du tabac, il te faut jeûner 3 jours. » Je lui dis, « Mais écoutez, ça ne sert à rien. » Vous voyez, ça voudrait dire, c'est grave ça, parce que ça veut dire qu'on est exaucé par des œuvres. Vous voyez, ce n'est pas biblique du tout. Elle avait eu à cœur, elle avait eu à cœur de jeûner 3 jours. Elle a bien fait, elle avait à cœur. Et dans ce moment de jeûne, elle a été guérie, délivrée. Mais dire à quelqu'un « Fais ça et Dieu va te bénir », je peux vous dire qu'on entreprend à enseigner les gens au salut, à la bénédiction, par les œuvres. Vous voyez comment c'est anti-biblique. Donc, une chose est certaine, le Seigneur, il sait comment faire avec chacun d'entre nous. Il vous connaît, il vous aime. Et cette prophétie d'Ésaïe, que Dieu a permis qu'on enchaîne avant les chants, nous rappelle que le Seigneur n'a pas changé. Il est là, ce soir, pour délivrer, pour guérir, pour libérer, pour donner la vue. Peut-être que c'est votre prière. Mais moi, j'ai 8 sur 10, ça s'accueille. Ce n'est pas un problème. Mais je ne parle pas de la vue spirituelle, de physique, mais notre vue spirituelle. Vous croyez, sincèrement, vous croyez que Dieu est capable de nous éclairer spirituellement? Est-ce que ça serait la première fois que Dieu parle à des chrétiens, à des pasteurs? Est-ce que Dieu a déjà dit à des pasteurs, vous êtes aveugles et vous conduisez des aveugles? À qui il l'a dit ça? Il l'a dit à des hommes de Dieu. Donc, j'en déduis que moi aussi, dans certains domaines, je peux être aveugle et ne pas voir réaliser certaines choses. Et Dieu, ce soir, peut m'ouvrir les yeux. Et au travers d'un texte, d'un verset, d'un psaume, le Seigneur peut m'ouvrir les yeux et me montrer certaines choses que j'ai besoin de voir. C'est Paul qui dit aux Éphésiens, pourtant c'est une bonne église, Éphèse. C'est une bonne église puisque Paul dit « J'ai entendu parler de votre amour et de votre foi ». C'est bien quand on peut dire d'une église « Tiens, dans cette église, on entend de bonnes choses ». C'est bien, non? Eh bien, dit « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur ». Comme quoi, même si on a de la foi, même si on a de l'amour, on peut avoir ce réflexe de dire « Je veux que le Seigneur m'éclaire dans ce domaine, dans ce sujet, dans cette affaire. Seigneur, éclaire-moi ». Touche-moi, Seigneur, et j'irai jusqu'à ta maison. Mais j'irai jusqu'à ta maison. Ces aveugles, ils n'ont pas dit, oh, le Seigneur, il s'est arrêté l'autre jour. On nous a dit que sur le cortège, il s'est arrêté pour un aveugle. Et pour nous, il ne s'arrête pas. Mais si c'est ça, on rentre à la maison. Il y a des gens, vous savez, ils veulent que ça se passe à leurs idées. Je crois qu'il ne faut pas que ça se passe comme on veut. Il faut persévérer. Il faut persévérer. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Je ne sais pas si vous aimez la persévérance. Vous aimez la persévérance? Et ouais. Moi j'ai entendu, je vous l'ai dit une fois, j'avais entendu aux infos un sportif de Toulouse qu'il n'avait pas été pris dans l'équipe nationale, et il était vexé, contrarié, parce que lui se considérait comme, bien sûr, un des meilleurs joueurs nationaux, et il témoignait, pas de Dieu, mais il témoignait qu'il a été vexé, et que pendant des mois, et les congés, eh bien, il faisait de la muscu, il a fait du sport, et quand il a recommencé un match, eh bien, il a été resélectionné, parce qu'il avait... Mais lui, ça n'est pas rendu compte des progrès qu'il avait fait. Il avait persévéré, il disait, voilà, aujourd'hui, je suis en équipe nationale, parce que tout cet été, j'ai travaillé. Dans le monde, les gens le font. Dans le monde, les gens le font pour pouvoir être sélectionnés. Enfin, pour du sport, c'est rien, mais je veux dire, c'est comme ça. Et nous, les chrétiens, nous ne serions pas capables, alors que ces deux aveugles, parce que les deux aveugles, ils auraient pu dire, ouais, mais moi, je suis aveugle. Si Dieu existait, je ne serais pas dans ce pétrin. Voilà, Dieu ne m'aurait pas fait naître aveugle. Dieu ne m'aime pas. Et les gens, c'est à la folie comment ils sont capables de s'éloigner de Dieu. Ces deux aveugles, ils se disent, ça suffit, il est là, alors autant qu'on profite de sa présence. Mais nous aussi, on devrait pouvoir dire, mais moi aussi, je veux profiter de sa présence. Je suis venu dans ta maison, mais peut-être qu'après, la maison, peut-être que vous aurez besoin de vous retrouver dans votre appartement et de faire des expériences. Je ne vous le dis pas pour vous rendre jaloux, mais moi, je vous assure, si vous saviez le nombre de fois ou après les réunions, ici ou ailleurs où j'ai été, je suis resté dans la prière, le temps que j'avais à cœur de rester. Et j'ai été touché par la grâce de Dieu, où j'ai pu faire de véritables expériences. Je vous parlais, vous voyez, du sport, quand on a gagné ces quelques âmes, parce qu'après eux, ils ont ramené du monde au Seigneur, le directeur de la salle. Et je me rappelle, je n'avais plus envie de faire du sport, en vérité, parce que ça ne m'intéressait pas du tout beaucoup, le sport. Et un lundi, j'avais été, et je faisais du rameur, vous savez, je faisais du rameur, pour me faire du bien. Mais j'y allais, parce que pour moi, je me dis, mais tu vas pas y aller. Ça m'énervait, en fin de compte. Et je me mets à prier dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, tu vois, en train de faire du rameur, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il faut que je continue à faire du sport? Mais je priais vraiment, parce que je sais que Dieu nous entend. Il y a un gars qui passe, un gars, mais vous savez, ces gars qui font du bodybuilding. Et bien, j'ai dit, vous devez en faire souvent du sport. Il me regarde, il me dit, Pasteur, ne faites pas du sport. Occupez-vous du salut des âmes. J'ai pris ma bouteille, ma serviette, je ne suis plus jamais revenu. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, c'est important. Mais devant Dieu, c'est vrai. Je n'exagère pas du tout. Je ne sais même pas qu'il me connaissait, le gars. Mais est-ce que vous croyez que Dieu peut nous répondre? Et ces deux aveugles, ils sont là. Quand Dieu dit, j'ouvrirai les yeux des aveugles, c'est pas magique, c'est pas mécanique. Il y a une démarche, il y a vraiment une démarche sérieuse. Ils étaient là dans la présence du Seigneur, c'était le fils de David. Ils n'ont pas laissé tomber parce que Jésus ne s'est pas arrêté. Ils ont été jusqu'à la maison. Si vous allez jusqu'à la maison du Seigneur, si vous allez vous retrouver tout à l'heure dans votre maison, Jérémie nous rappelait l'autre jour, dimanche après-midi, que le Seigneur a dit, quand vous prierez, vous m'appellerez mon Père et vous entrerez dans votre chambre, vous fermerez la porte et Dieu sera là, dans le lieu secret. C'est ça la maison. La maison, dans la Bible, c'est toujours ce lieu de communion où, bien sûr, si on est là et qu'après on se retrouve dans la télé à regarder des âneries, moi je crois que la démarche, elle est faussée. Mais il y a besoin de persévérance. La Bible est catégorique, vous avez besoin de persévérer. Dieu peut nous éprouver, croyez-moi. Eux, ils ont été éprouvés, les aveugles se sont approchés de lui, Jésus leur pose une question, croyez-vous que je puisse faire cela? Imaginez, ils ont entendu que la voix du Seigneur, que sa voix, croyez-vous que je puisse faire cela? Alors ils auraient pu dire, ben, écoute, nous on est aveugles, on nous a dit que... Ouais, en fait, on nous a dit que d'autres aveugles avaient été guéris, mais nous, on ne les a pas vus puisqu'on est encore aveugles. Vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient pu réagir comme ça. Ils ont dit, écoute, tu nous poses une question, ça nous embarrasse. Écoutez-moi, je nous pose la question. Est-ce que vous croyez qu'à Dieu, tout est possible? Est-ce que vous croyez cette parole que l'ange Gabriel a dit dans la maison de Marie? Parce que c'est quand même une drôle d'histoire, ça. Quand l'ange Gabriel est arrivé dans la maison de Marie, pas besoin de GPS. Alors je dis ça pourquoi? Pour expliquer que le Seigneur ici où on habite tous, qui ne cherche pas sur des cartes pour savoir où on est. Le Seigneur ici où on est. Et il est arrivé, il a dit, écoute Marie, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et vous savez l'expérience qu'elle a pu faire cette jeune fille. Mais Tout ça, c'est écrit pour notre instruction. C'est écrit pour que l'on puisse vivre certaines choses. Croyez-vous que je puisse faire cela ? Je ne sais pas ce que vous avez besoin, mais est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire ? Vous ne devez pas douter, il est tout puissant. Je l'ai dit régulièrement, il y a 7 milliards 300 millions d'habitants sur la Terre. Ça commence à faire du monde. Si les 7 milliards 300 millions de personnes se mettaient tout d'un coup à prier de tout leur cœur, eh bien Dieu pourrait exaucer les 7 milliards 300 millions de personnes en même temps, sans se tromper d'adresse. Voilà. Vous croyez, est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Oui, tout est possible à Dieu. Et nous ne nous rendons pas compte combien nous pouvons passer à côté de sa grâce, de sa faveur, de nous retrouver chez soi et de dire « Seigneur, j'ai besoin de me retrouver dans ta présence. Je veux refaire une nouvelle expérience avec toi. Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Oui, ils ont dû répondre tous les deux en même temps, sûrement. Oui, répondirent-ils. Il y en a un qui aurait dit oui. Imaginez l'autre qui dit non. Est-ce que ça aurait pu se produire ? Est-ce que ça aurait pu arriver qu'un dise oui et l'autre non ? Ben oui, Dieu nous laisse toujours libres. Dieu nous laisse toujours libres. Ils ont parlé, qu'est-ce qu'on répond ? Non. Tous les deux ensemble, certains, oui, tellement ils étaient au bénéfice de cette onction. Car je crois que dans la présence de Dieu, on peut être amené à un moment donné où il y a une onction particulière. Notre frère lisait ce texte où Jésus s'est retrouvé dans la synagogue de Nazareth et qu'il ne faisait que parler. Les yeux de tous étaient fixés sur lui. Il y avait une onction et je crois que c'est ce dont on a besoin. Que cette onction vienne sur nos vies, que l'onction du Seigneur vienne sur nos cœurs. Et vous savez, il y a un verset biblique auquel je pense presque tous les jours. Parce que tu as aimé la justice et parce que tu as haï l'iniquité, ton Dieu t'a oint. Et je crois que lorsque dans une église on aime la vérité, lorsque dans une église on marche dans la sainteté, je suis persuadé que ça favorise, c'est sûr, quand je dis persuadé, c'est que je suis certain que ça favorise l'onction et la bénédiction du Seigneur. Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi et leurs yeux s'ouvrirent. Et je ne sais pas comment ils sont rentrés à la maison. Mais je pense qu'ils ont rentré plus vite. Vous ne croyez pas ? Vous vous rendez compte, quelle expérience ? Est-ce que vous avez envie de faire une expérience avec le Seigneur ? Est-ce que ce Seigneur, c'est toujours le même ? Oui, il s'est arrêté pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Le jour de la colère, le jour de la vengeance, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour ceux qui n'auront pas voulu de cette grâce. Si vous êtes venu ce soir dans la maison du Seigneur, c'est que vous voulez la grâce de Dieu. Vous ne voulez parce que la colère, bon, on se doute qu'elle arrive. Il n'y a pas besoin d'être méga prophète pour soupçonner que la colère de Dieu va venir. Mais bien sûr, ce n'est rien à côté de tout ce qui va se présenter. Mais Jésus est assis sur le trône. Le ministère qu'il a exprimé le jour où il a guéri ses deux aveugles, il peut l'exprimer ce soir et vous pouvez vraiment crier à lui, dire « Seigneur, moi je veux prier dans mon cœur. » Tout à l'heure, sous ma couette ou sous mon drap, parce qu'il ne fait pas trop froid, « Seigneur, sous mon drap, je vais parler, je vais te parler, je vais crier. » Personne ne vous entendra, personne. Mais Dieu vous entendra et vous pourrez vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Il ne faut pas douter. Vous savez, ce que vous pensez, vous, c'est pas important. Ce que Dieu dit, c'est important. Quand Dieu dit qu'il entend nos prières, qu'il entend nos cœurs, il entend nos cœurs. Ce n'est pas la peine. Un jour, quelqu'un m'avait dit, oui, mais vous... parce que j'avais raconté deux ou trois expériences. Au fait, la personne qui était ici, elle m'a dit, oui, je ne comprends pas pourquoi, à quoi ça sert que vous racontiez des témoignages. J'avais raconté dans la prédication trois témoignages que j'avais expérimentés, comme tout à l'heure, vous savez, sur le fait que Dieu entend nos cœurs. Et j'ai dit, écoutez, ma sœur, moi, ça m'a servi et ça m'a fortifié. Parce que j'ai vu que Dieu vraiment entend nos prières dans notre cœur. Alors si ça ne vous a pas fait du bien, je regrette, mais moi, ça m'a fait du bien. Et c'est important que tout à l'heure, vous puissiez dire, mais c'est vrai, je veux réaliser que tu entends toutes mes prières. Toutes mes prières. Ces aveugles, ils sont rentrés à la maison, mon Dieu. Des fois, j'aimerais vraiment voir comment ça s'est passé. Vous n'aimeriez pas les voir, vous les deux bonhommes, on a rentré à la maison, chez eux. Ça a dû rentrer, je suis sûr qu'ils sont rentrés sympas, ils n'ont pas ouvert la porte. Ça devait être tellement merveilleux. Ça doit être merveilleux, c'est vrai. Et combien je voudrais ce soir que vous puissiez dire, mais je veux revivre. Je veux vivre cette même expérience. Oh, c'est peut-être pas mes yeux, mais c'est peut-être mon cœur qui a besoin d'être touché. C'est peut-être pas mon cœur, c'est peut-être ma bouche qui est impure. Cette saleté qui sort de ma bouche. Je sais pas. Enfin, Dieu sait, vous savez.
ce que Dieu peut toucher. Oui ou non ? Seigneur, touche-moi, je sais que tu ne me juges pas. Tu jugeras un jour le monde. Un jour, la Bible dit qu'il sera le juge. Mais ce soir, le Seigneur, ce n'est pas le juge. Le Seigneur, c'est le Dieu de grâce. Il est assis sur le trône de la grâce. Il est miséricordieux. Ce qu'on a chanté, c'est la vérité. Il peut consoler, il peut guérir, il peut délivrer, il peut libérer. C'est son ministère. Et sur la croix, en plus, ça a été validé. Tout est accompli. Il a versé son sang pour que vous puissiez vous approprier sa victoire. Il a versé son sang pour que vous puissiez être justement au-dessus de toutes ces puissances de ténèbres et vivre dans la victoire. Il est un Dieu de victoire. Moi, tous les matins, je me réveille avec ce verset quand il est dit « Mais considérez-vous mort au péché ». Dans le sens, mais on a la victoire, on n'est pas obligé de pécher. Vous comprenez ce que je veux dire ? Considérez-vous comme mort au péché. Ça veut dire, voilà, on est mort au péché. On est par la grâce de Dieu. Oui, on le relit pour terminer, Ésaïe 61. C'est exactement ce que Dieu veut. Et il le veut. Et c'est son désir. Et dans les églises, voilà ce que Dieu veut. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, dit Jésus. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Des bonnes nouvelles, c'est bien les bonnes nouvelles, non ? Une bonne nouvelle. Voilà, l'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça peut arriver d'avoir le cœur brisé ? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir le cœur brisé ? Eh bien ouais. Eh bien Dieu peut le guérir. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je me souviens de ce frère un jour qui était venu à l'église. Il était venu à l'église et pourtant c'était un homme qui avait vraiment tout ce qu'il faut. Et au bout de 6 mois, il me dit, voilà, il me dit, Monsieur Gauche, je peux vous voir ? Et je dis oui. Il arrive, il me mettait les mains comme ça. Il me dit, regardez, vous voyez, bon, quand je suis arrivé, je suis venu, mon cœur, il était brisé, à 1000 morceaux. Et à chaque prédication, Dieu a recollé les morceaux. Et aujourd'hui, mon cœur, il est guéri. Et cet homme, il m'a raconté ce qu'il avait vécu. C'est clair que c'était compliqué. Mais est-ce que vous croyez que Dieu guérit les cœurs brisés ? Dieu guérit les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. On n'a pas lu la fin du verset 2. Pour consoler quelques affligés, comment vous avez dans votre version ? Pour consoler tous les affligés. Mais moi, ça, quand je lis ça, eh bien moi, ça me fait un peu de bien quand même. Tous les affligés. Je ne sais pas ce qui vous a affligé. Je ne sais pas si ça ne va pas à cause de votre péché. Eh bien, Dieu peut guérir tous les affligés. Tous les affligés. Il peut changer le deuil, leur donner un diadème au lieu de la cendre. Là, j'y vois plus rien. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Il est dit, il a pitié de toutes nos ruines. Vous avez vu les ruines commencer ? Vous avez vu déjà une maison en ruine ? Est-ce que vous avez déjà vu une maison en ruine ? Eh bien, Dieu dit que même si nous ressemblions à une ruine, je veux dire, quand on est une ruine, ça quand même, ça craint. Eh bien, Dieu dit qu'il a pitié de toutes nos ruines. Nous, quand on voit des ruines, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, on dit, bon, ça ne sert à rien. Dieu dit, il a pitié de toutes nos ruines. Que son nom soit béni. On va fermer les yeux quelques instants. N'oubliez pas que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et Dieu veut nous bénir. Il est là pour consoler. Oui, il est encore assis sur le trône de la grâce. La porte est ouverte. Ne vous sentez pas jugé, condamné. Ne vous sentez pas dans cette culpabilité. Sentez-vous dans son amour à la croix du calvaire. Voilà, on va prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous savons que tu es le Fils de David, le Dieu très haut. Tu étais Dieu dans les cieux et sur la terre et tu es venu sur la terre des hommes, dépouillé de ta gloire. Tu as marché parmi nous et par cette onction, par ce baptême dans le Saint-Esprit, tu as pu amener cette délivrance, cette consolation, cette guérison. Et tu nous rappelles ce soir par ta parole que cette année de grâce n'est pas achevée, qu'en ce jour de juillet 2014, ta grâce n'est pas achevée, qu'elle se manifeste dans le cœur des hommes. Merci Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour l'onction. Oui, tu n'es pas venu pour nous juger, tu es venu pour nous toucher, nous faire grâce. Merci Seigneur, du fond du cœur, merci pour la vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Fais et reproduis ces mêmes choses dans le cœur de ceux qui se comporteront comme ces deux aveugles qui, jusqu'à la maison, persévéreront jusqu'à ce que tes mains bénissantes les touchent. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.